le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Nous souhaitons la bienvenue au pasteur Gabriel Monet, professeur de théologie pratique à la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève, c'est en Haute-Savoie, à côté de Genève. Gabriel Monet nous propose une lecture attentive du récit d'un miracle bien connu, la multiplication des pains. Une abondance incroyable, la vie en abondance. Mais de quoi s'agit-il? Nos carences, nos faims, nos limites ne permettent-elles pas à Jésus d'accomplir ce signe étonnant de la multiplication?
Chers auditeurs, bonjour. Je vous souhaite la paix et la joie du Christ. Bienvenue pour ce moment de partage et de réflexion, de prière et de méditation. Il se veut célébration de la vie et évocation de la vie spirituelle en particulier. Ne manquer de rien, voilà un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et c'est vrai, nous apprécions d'avoir l'assurance d'une certaine aisance. Nous la désirons même souvent. Qui n'a jamais rêvé d'être riche et de vivre dans l'abondance? Seulement, est-ce bien chrétien de vouloir beaucoup? Bien sûr, Jésus lui-même met en garde contre les risques de s'attacher aux biens matériels. Mais il serait faux de croire que le Christ ne souhaite pas l'abondance pour nous. Il l'affirme très clairement. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et Jésus de joindre le geste à la parole. En d'autres termes, Jésus ne va pas simplement affirmer qu'il souhaite l'abondance pour nous, mais il va y contribuer. Et pas seulement une fois. Au travers de certains miracles qu'il va accomplir, Jésus nous envoie ce message. Être chrétien, ce n'est pas la pauvreté, la privation, la tristesse, le rationnement, l'abattement. Non, la vie avec Christ, c'est l'abondance, la multiplication, la joie, le partage. Cependant, s'agit-il de l'abondance que notre société valorise et met en évidence? Une abondance tournée vers l'intérêt personnel? Une abondance synonyme de toujours plus et surtout de choses matérielles? Non. L'abondance dont parle Jésus touche à l'ensemble de la vie, mais elle est d'abord spirituelle. Avant de nous intéresser à une scène de l'Évangile qui nous parle d'abondance, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi en cet instant, avec nos enthousiasmes et nos réussites, mais aussi nos limites et nos insatisfactions. Donne-nous d'accueillir la grâce abondante qui émane de toi. Nous avons conscience de la valeur inconditionnelle que nous avons à tes yeux et voulons t'honorer en marchant dans tes voies. Donne-nous de discerner le sentier que tu veux que nous suivions et comble-nous par ta bienveillance. Amen. Parmi les miracles que Jésus a accomplis et qui sont rapportés dans les évangiles, la majorité d'entre eux sont des guérisons. Cependant, même si ces guérisons rendent compte d'une belle générosité, certains autres miracles peuvent être plus spécifiquement considérés comme des miracles d'abondance. Jésus change l'eau en vin à Cana et permet ainsi à une fête de mariage de se prolonger avec pléthore d'un breuvage de qualité. Jésus suscite deux pêches miraculeuses qui transforment une nuit de pêche infructueuse en profusion de poissons avec des filets qui débordent. Jésus va également par deux fois contribuer à ce qu'on appelle une multiplication des pains. L'une d'entre elles est rapportée dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. La scène se passe en Galilée, non loin du lac de Tibériade, dans un endroit désert et discret, sur une montagne, et ce n'est pas anodin. En fait, Jésus s'est retiré avec ses disciples pour être tranquille sur la côte est du lac, la plus sauvage. Mais la foule est en quête et cherche Jésus. Écoutons le récit.
Ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait, quant à lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5 000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons, il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau, seul, dans la montagne.
Comme tous les miracles de Jésus, celui-ci nous impressionne par l'impact qu'il a eu sur ses bénéficiaires. Mais en œuvrant de la sorte, Jésus n'a pas seulement nourri la foule ce jour-là. Il a laissé un message que les 4 évangélistes ont eu à cœur de partager. D'ailleurs, le mot utilisé pour parler de miracle dans l'évangile de Jean se traduit par « signe », comme pour insister sur le fait que l'acte en lui-même est signifiant. Il y a très souvent un lien entre les paroles de Jésus et ses actes. Les miracles que Jésus accomplit sont porteurs de sens pour tout un chacun, et pas seulement pour ceux qui en ont bénéficié. Quand Jésus se présente comme la résurrection et la vie, il ressuscite Lazare, comme pour attester que l'inimaginable de la résurrection est potentiellement une promesse pour tous. Quand Jésus guérit un paralytique, il montre qu'il est désireux de nous mettre ou nous remettre en marche. Quand Jésus guérit un aveugle, il se décrit comme la lumière du monde et nous invite à nous identifier aux aveugles ayant besoin de recouvrer la vue, car si nos yeux voient, il est bien probable que, comme il le reproche à ses disciples, nos cœurs ne voient pas forcément juste et nos visions ont besoin d'être transformées. Alors que nous abordons la multiplication des pains, il s'agit donc pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, de ne pas seulement être impressionnés par ce qui s'est passé ce jour-là, ou se réjouir pour les bénéficiaires de l'époque, mais il s'agit de discerner ce que Jésus a voulu dire en agissant de la sorte, et ce que l'évangéliste Jean a voulu rendre compte par son récit. Ces versets qui sont venus jusqu'à nous sont comme quelques pains distribués qui, sous l'influence de l'Esprit, pourront peut-être bien s'avérer plus généreux qu'il n'y paraît. Et justement, nous parler de la manière dont nos vies peuvent être dans la dynamique de l'abondance, la quête de la plénitude, le chemin de l'épanouissement. Dès le début du récit de la multiplication des pains, un détail éveille notre attention. Jésus lève les yeux. Ceci est physiquement et géographiquement étonnant. En effet, Jésus est sur une montagne. La foule ne peut donc venir que d'en bas. Et pourtant, c'est ayant levé les yeux que Jésus voit toutes ces personnes qui le cherchent. En rédigeant ainsi, l'évangéliste a probablement voulu révéler au moins 2 choses. D'abord, l'attitude fondamentale de Jésus vis-à-vis d'autrui. Il ne regarde jamais personne de haut. Quand bien même il pourrait se glorifier de sa puissance ou de son aura, il maintient une posture d'humilité et de service. Il ne cesse de considérer les autres comme supérieurs. D'autre part, cette précision indique d'entrée, symboliquement, que la source de l'abondance véritable se trouve au ciel, dans une relation de communion avec Dieu. Cette attitude rejoint les paroles de Jésus qui, dans sa prière modèle, s'adressait à « notre Père » en lui demandant de nous donner chaque jour notre pain de ce jour. Tout Jésus qu'il est, sa dépendance avec Dieu est le premier pas vers l'abondance. Cet élan qui élève est aussi un premier indice montrant que l'enjeu de ce qui va se passer n'est pas seulement matériel, mais aussi fondamentalement spirituel. Cela est corroboré par le fait que, contrairement aux autres récits parallèles qui relatent l'épisode, Jésus ne va pas susciter cette multiplication des pains après une longue journée de prédication pour répondre aux besoins d'une foule affamée et fatiguée. En fait, dès l'irruption de la foule, Jésus initie lui-même d'entrée le signe des pains qui abondent. En d'autres termes, Jean aperçut que la multiplication des pains était en soi le message spirituel que Jésus voulait partager ce jour-là. Le discours du lendemain, où Jésus se présente comme le pain de vie, confirme que, finalement, cette multiplication des pains n'est pas une fin en soi, mais constitue une parabole en lien avec un message spirituel. Au cœur de l'intention de Jésus, alors que ce miracle parle d'abondance, il s'agit donc d'affirmer que l'abondance dont il est question n'est en tout cas pas seulement matérielle, même prioritairement pas de l'ordre du manger ou du boire, mais spirituelle. Comme pour la femme samaritaine, deux chapitres avant notre récit, pour qui l'eau que Jésus proposait n'était pas une eau qui étanche la soif physique, mais une eau qui devient source jaillissant en vie éternelle, le pain que propose Jésus, c'est lui-même, pain de Dieu descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ce n'est pas un pain périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle. Le texte évoque d'autres éléments qui attestent de cette dimension spirituelle de l'abondance proposée et désirée par Jésus. On trouve notamment plusieurs références à l'Exode, qui indique que la quête de plénitude est d'abord un chemin de libération. Le texte parle de la traversée et évoque l'autre rive, possible allusion à la traversée de la mer Rouge. Il s'ensuit que Jésus gravit une montagne, comme Moïse au Sinaï. D'ailleurs, il est précisé que l'on se situe à l'orée de la fête de Pâques, qui célèbre précisément la sortie d'Égypte. Jésus pose la question de savoir comment la foule pourrait être nourrie de la même manière que Moïse l'avait fait vis-à-vis du peuple. Et bien entendu, le pain qui nourrit toute la foule ce jour-là rappelle la manne au désert, comme Jésus lui-même y fait référence dans son discours du lendemain. En d'autres termes, l'abondance n'est pas de l'ordre d'avoir plus, toujours plus de choses matérielles, mais au contraire, d'oser avancer dans la vie en quittant ce qui nous retient esclaves et dépendants, pour oser la confiance et entrer dans une relation de foi avec le libérateur. D'ailleurs, les cinq pains qui vont finalement nourrir toute la foule ce jour-là pourraient être rapprochés de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible qui constituent le Pentateuque, dont le cœur est précisément ce que Moïse a reçu de Dieu lui-même au sommet du mont Sinaï lorsqu'il s'est révélé à lui. La multiplication des pains est ainsi d'abord à considérer comme potentielle multiplication de la parole de Dieu, qui peut avoir un effet fructueux, abondant et fécond dans nos vies. C'est à la mesure de notre communion avec Dieu, de notre écoute et de notre mise en pratique de la parole de Dieu que notre vie prend une dimension de plénitude avec ce sentiment d'être rassasié. Cette dynamique de la confiance en Dieu peut aussi être discernée dans un autre détail du texte. L'auteur précise, au moment où Jésus fait asseoir la foule, qu'il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Nul doute qu'il y a là une allusion au célèbre psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » L'allusion à l'abondance d'herbes et le fait que Jésus partage les pains et les poissons pour rassasier la foule, qui dès lors ne manque de rien, nous amène à faire le lien avec le berger qu'il est. Il se présentera d'ailleurs comme tel quelque temps plus tard. Or, le berger, c'est celui qui nourrit, mais aussi celui qui prend soin, qui veille, qui est attentionné. Il développe une relation de confiance avec ses brebis. Et c'est bien là un élément essentiel d'une vie remplie et épanouie dans la vision du Christ. Une vie où l'on ne fait pas que s'activer tout seul dans son coin pour avoir ou faire toujours plus. Mais une vie où l'on sait compter sur le bon berger. Où l'on prend le temps de se reposer dans de verts pâturages. Faire peut-être moins, mais mieux. Avoir potentiellement moins, mais goûter l'essentiel. Qui est une relation de confiance avec ceux qui nous entourent et avec le Christ. Dans cet épisode de la multiplication des pains, l'abondance a son origine dans le peu de la situation initiale, dans la conscience de la fragilité. C'est Jésus qui, d'entrée, met en évidence le manque et les limites. Il le fait en posant la question à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient à manger ?» Le disciple répond logiquement que même une somme importante, en l'occurrence 200 deniers, c'est-à-dire l'équivalent du salaire de 200 journées de travail, ne suffirait pas pour que chacun reçoive ne serait-ce qu'un petit morceau. Pour Jésus, la perspective d'acheter les choses ou de compter sur une potentielle richesse financière pour combler les besoins de la foule n'est pas l'option qui peut fonctionner. C'est alors qu'un autre disciple, André, intervient et présente le peu qu'il a pu trouver. Il y a là un jeune garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Autrement dit, 3 fois rien. Comme les 3 indications du texte qui insistent sur la fragilité, la petitesse, la limite de ce qui est possédé. La première est le fait que c'est un jeune garçon qui détient le peu de nourriture. La deuxième est dans le petit nombre de pains et de poissons. Et troisièmement, dans la qualité des pains et des poissons. André précise que les 2 poissons sont petits et que ce sont 5 pains d'orge, les pains des pauvres. L'orge qui, au passage, est aussi la céréale utilisée pour faire le pain azim, utilisée pour fêter la Pâque. C'est donc conscient des limites de sa trouvaille que logiquement André conclut « Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Mais c'est précisément l'intention de Jésus, ce jour-là, de transmettre le message que l'abondance découle de la conscience du manque et que l'acceptation de nos moyens limités devient le tremplin vers une plénitude inattendue, qui vient donc forcément d'ailleurs, mais qui en même temps a sa source dans le peu que nous avons déjà. Dans la vie, nous devons tous, à un moment ou à un autre, faire face au manque. À des degrés divers et concernant des aspects différents, une vie d'abondance passe probablement toujours par la prise de conscience de ce manque. Qu'il soit matériel, et dans ce cas-là, c'est plutôt évident, mais nos manques sont parfois existentiels, relationnels, affectifs. Si pour Jésus, le pain représente plus que de la nourriture et ouvre à un univers symbolique fort, il est essentiel de considérer le texte avec cette perspective de pallier à nos insuffisances. Dans la perspective de Jésus, est riche celui qui se satisfait de ce qu'il a. Ou plutôt, l'abondance vient de ce que je partage le peu que j'ai. En effet, Jésus prend le peu du jeune garçon et après avoir rendu grâce, va le distribuer. Le texte précise que Jésus en donna aux personnes présentes autant qu'ils en désiraient, au point que chacun va être rassasié. Le verbe original en grec pour « distribuer » a pour racine le verbe « donner », qui est essentiel dans l'évangile de Jean, qui présente Jésus comme « donnant sa vie ». Il y a comme un renversement des valeurs. Dès lors que l'on donne de soi, que l'on distribue le peu que l'on a, alors on se rend compte qu'il y a suffisamment, qu'il y a même trop. Ce jour-là, il y avait au départ 5 pains d'orge et 2 petits poissons, et il y a à la fin 12 paniers pleins. La symbolique des chiffres est significative. Au-delà du fait qu'il y a 5 pains, et que le mot pain se retrouve 5 fois dans le récit, qu'il y a 2 poissons et que le mot poisson est mentionné 2 fois dans le texte, le fait qu'il y ait 5 pains pour nourrir 5000 hommes, puis qu'il reste 12 paniers, est un message en soi. Le chiffre 1000, qui est le ratio entre le nombre de pains et le nombre d'hommes, signifie l'innombrable. En d'autres termes, le peu, dès lors qu'il est distribué par le Christ, est plus que suffisant et devient incomptable. Au passage, il importe de souligner que dans le récit de Jean, c'est Jésus lui-même qui distribue. En fait, contrairement au récit parallèle dans les évangiles synoptiques, où Jésus confie cette tâche à ses disciples, ici c'est Jésus qui fait tout. C'est lui qui prend l'initiative, qui fait asseoir, qui rend grâce, qui distribue et qui donne autant que chacun en veut. Il fait tout sauf ramasser les restes, tâche confiée aux disciples, afin que rien ne soit perdu. Comme il le dit, faisant probablement allusion aux paraboles de la brebis, de la pièce, puis du fils perdu et retrouvé. Avec Jésus, on compte le peu parce qu'il a de la valeur. Mais ensuite, quand ce peu fructifie, on ne le compte plus parce qu'ainsi va l'abondance avec Jésus. Il y a débordement, élargissement. Chacun est rassasié, mais ramasser les restes permettra de faire profiter de cette abondance encore bien d'autres personnes. Il reste donc 12 paniers. Ce n'est plus les pains que l'on compte, mais leur contenant. D'ailleurs, ce n'est pas des pains entiers que l'on ramasse, mais des morceaux. En fait, le pain ne se multiplie que s'il est fractionné, rompu, pour être partagé. Et les 12 paniers de reste évoquent qu'il y a du pain de vie à volonté pour tous. Le chiffre 12 évoque l'universalité, la suffisance. Il est la multiplication du 3, chiffre de la divinité, de la plénitude, avec le 4, chiffre de l'extension, comme au travers des 4 points cardinaux, par exemple. Le fait qu'il reste 12 paniers indique la générosité universelle du Christ. D'ailleurs, le mot utilisé pour parler des restes n'est pas le mot que l'on traduit habituellement par « reste », mais un terme en lien avec l'abondance, littéralement « ce qui abonde au-delà de ce qui a été consommé ». Ainsi, il apparaît clairement que Jésus veut nous enseigner que la véritable fécondité consiste à valoriser ce qui nous est donné, sans chercher à monopoliser plus que nous n'avons besoin. L'abondance de notre vie passe par la conscience de nos limites, étape clé pour goûter la générosité du Christ. À l'occasion de cette multiplication des pains, un élément clé de l'action de Jésus est qu'il rend grâce pour les 5 pains d'orge et les 2 petits poissons. C'est probablement le point décisif qui ouvre la dynamique de l'abondance. Le terme utilisé pour évoquer la prière de reconnaissance de Jésus est porteur. Jésus a prié, il a rendu grâce. Littéralement, le texte dit qu'il a eucharistié. Ce mot est lié à la notion de grâce, la charis. En fait, c'est un mot commun, utilisé couramment à l'époque. Même s'il a pris ensuite, pour les chrétiens, une coloration liturgique et une teneur théologique spécifique. Le verbe évoque une attitude d'accueil des choses et des situations, une reconnaissance pour ce qui est reçu. C'est finalement un mot qui désigne une attitude fondamentale qui consiste à recevoir quelque chose comme don. C'est une posture d'être qui est de l'ordre du recevoir ce qui est non dû. L'attitude eucharistique, c'est donc à la fois recevoir comme un cadeau ce qui nous arrive et donner pour partager. C'est finalement entrer dans un triple mouvement de la grâce. Dieu qui fait grâce par son Fils, l'humain qui rend grâce à Dieu par Jésus-Christ, et tous qui sont invités à vivre en grâce les uns avec les autres. En lien avec Jésus qui rend grâce, qui eucharistie en vue de rassasier la foule, on peut évidemment s'émerveiller que, si ce jour-là il multiplie les pains, un autre de ces miracles d'abondance a consisté à changer l'eau en vin. Ce sont des gestes forts et une anticipation du repas pascal, au cours duquel il va donner au pain et au vin les symboles de son corps et de son sang, généreusement offerts pour notre salut. En fait, l'abondance pour Jésus, et potentiellement pour nous, n'est pas de l'ordre de posséder beaucoup, mais de connaître la valeur des choses, plus encore de leur donner du sens. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà la clé d'une vie d'abondance et de plénitude. Et le plus beau des dons, c'est donner de soi. La multiplication des pains que Jésus a accompli sur une montagne au bord du lac de Galilée est un message d'espérance. Ce jour-là, la foule est arrivée auprès de Jésus sans y être invitée, alors que lui désirait s'isoler. Pourtant, Jésus va considérer toutes ces personnes, qui d'une certaine manière viennent l'importuner, comme des convives, mot utilisé dans le récit lorsque Jésus distribue le pain. En fait, le repas que Jésus improvise est une anticipation du repas de fête où Jésus convie tout un chacun pour la vie éternelle. À une autre occasion, il a comparé le royaume des cieux à un festin de noces où les invités qui sont finalement présents ne sont pas forcément ceux que l'on imaginait, alors que le maître qui invite ouvre grand les portes à tous. Dans notre épisode, Jésus a saisi l'occasion de partager une parabole vécue qui demeure parlante pour nous aujourd'hui. Jésus nous invite à sa table. Jésus nous incite à le suivre. Jésus nous exhorte à lui faire confiance. Jésus nous convie pour partager le pain. Jésus veut faire de nous ses compagnons d'éternité. Et littéralement, un compagnon, c'est celui ou celle avec qui l'on partage son pain. Certes, Jésus pourra répondre à nos besoins divers et variés de bien des manières, mais en se présentant comme le pain de vie, il veut faire prendre conscience qu'il n'a pas vocation à être le roi dont chacun pourra profiter pour son propre intérêt extérieur, mais qu'il veut être le roi d'une vie intérieure transformée. Et c'est pour cela qu'à la fin, alors que les gens voulaient l'enlever pour le faire roi, lui se retire à nouveau, seul, dans la montagne. Sa communion avec Dieu, voilà la plus belle des abondances. Notre communion avec le Christ, voilà assurément la clé d'une vie de plénitude. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui es venu et qui viens pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, tu nous fais la grâce de ta générosité, de ta bienveillance et de ton amitié. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons distinguer ce que la vie nous offre de précieux et qui nous vient de toi. Nous sommes parfois tellement préoccupés par nos insatisfactions et nos efforts pour atteindre ou avoir des choses finalement futiles que reste voilée toute la richesse qui vient d'en haut et qui donne tellement de sens à nos vies. Alors merci de nous éclairer, de nous nourrir, de nous abreuver, de prendre soin de nous. Nous sollicitons ta bénédiction et nous avons l'assurance que tu nous l'accordes. Amen.
Ce service protestant du dimanche sur France Culture se termine. Merci au pasteur Gabriel Monet. Notre invité enseigne la théologie pratique au campus adventiste de Collonges-sous-Salève, en Haute-Savoie. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Clotilde Pivin pour la réalisation et à Éric Boisset pour la prise de son. Le service protestant de ce dimanche matin a été enregistré dans une vive émotion. Au nom de la Fédération protestante de France et de son service radio, c'est avec une infinie tristesse que je vous annonce la disparition de Michel Schaeffer. Sa voix grave et singulière animait chaque dimanche matin sur France Culture le service protestant. Il en était le producteur depuis 9 ans. Michel Schaeffer a préparé et présenté plus de 500 émissions avec les prédicateurs. Il les a enregistrées avec le souci permanent de la qualité sonore et d'une diffusion accessible de la parole du Christ pour tous. Michel Schaeffer avait le goût du son. Son oreille acérée de guitariste recherchait toujours la musicalité et l'équilibre dans les programmes et les tons des voix qu'il enregistrait. C'est dans cet esprit perfectionniste qu'il conseillait toujours, avec bienveillance et patience, les personnes avec qui il travaillait. Au service radio de la Fédération protestante de France, nous avons eu cette chance. Merci à toi, Michel. Adieu, l'ami. Vous pouvez réentendre Michel Schaeffer et ses invités sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Vous souhaitez partager votre émotion avec nous? Je vous invite à nous écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, à Paris, dans le 9e. Aussi par mail fpf-radio@fédérationprotestante.org. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur la page Facebook de la FPF. Restez à l'écoute de France Culture, à 9h le journal, suivi de Talmudic présenté par Marc-Alain Wachnin. Nous prenons congé de vous avec une chanson de Michel Schaeffer intitulée « Beau dimanche ».
Dans les mots des beaux dimanches qui donnent l'envie de la vie. Tu nous parles du bon sens, celui de la vie d'ici. Oh, notre vie, ici, aujourd'hui, ici. Orgue noire ou aube blanche, tu chantes et tu pries aussi. Pour l'amour en avalanche, qu'il arrive ici aussi, aussi, ici, aussi, ici, aussi, ici, oh, oh messager de l'espace. Quand tu passes, je voudrais te rendre grâce. Oh, 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 oh. Dans les mots des beaux dimanches, dans ce que tu lis est remis.